Le journal de Marceline Michon.
Bonsoir. Les élèves suisses sont meilleurs que ceux des autres pays. C'est la bonne nouvelle de l'étude PISA sortie aujourd'hui. Mais ils sont de moins en moins bons en mathématiques, sciences et lecture. Détail en début de journal. Pas d'inquiétude autour des polluants éternels dans le Jura. Les analyses font état d'une présence en faible quantité sur nos sols et dans nos eaux souterraines. Pas d'assainissement nécessaire, mais de la surveillance. Il a vacillé, mais restera finalement debout. Le trophée de la Tour de Moron, qui compte pour le trophée jurassien de course à pied, a rassemblé les forces suffisantes pour assurer sa pérennité malgré une profonde remise en question. Quelques averses et giboulées sont attendues cette nuit, limite des flots convers 600 mètres. Demain, nuages et précipitations sont attendues le matin, accalmie l'après-midi. Les élèves suisses restent meilleurs que les autres malgré des résultats en baisse. L'Organisation de coopération et de développement économique publie aujourd'hui les résultats de PISA, l'enquête internationale sur les performances scolaires 2022. Plusieurs milliers d'élèves suisses âgés de 15 ans ont participé à l'étude qui porte sur les maths, la science et la lecture. Les résultats sont paradoxaux et peuvent être lus en voyant le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et on commence par les bonnes nouvelles avec Amélie Gerber.
Si l'on veut voir le verre à moitié plein, on peut relever que les jeunes Helvètes dépassent la moyenne de l'OCDE dans tous les domaines. Les résultats sont d'ailleurs très bons en mathématiques, où ils se placent 8e sur l'ensemble des 81 pays participants. L'observation est plus ou moins similaire en sciences naturelles, où la Suisse est 10e mondiale, et en lecture, 15e mondiale. La Suisse s'inscrit dans le cercle restreint des 18 pays qui obtiennent la moyenne dans toutes les branches. En comparaison internationale, la position de notre pays s'est améliorée au sein des trois domaines.
Et les plus pessimistes verront le verre à moitié vide. On retrouve Amélie Gerber.
Si l'on compare les résultats des élèves suisses en 2022 à ceux des enquêtes précédentes, on peut voir qu'ils sont en baisse. En lecture, 25% des jeunes n'atteignent pas le niveau minimal défini par l'OCDE, une proportion qui a augmenté de 5 points depuis 2015. Le constat est le même en maths et en sciences, avec des valeurs moins bonnes qu'en 2015 et 2018. Les autres pays connaissent le même sort, avec une baisse encore plus significative qui pèse sur la moyenne mondiale. Vu sous cet angle, l'excellent classement de la Suisse au niveau international reflète surtout la chute des résultats des autres pays.
66 millions de francs, c'est le déficit structurel du budget 2024 de la Confédération après son passage aujourd'hui devant le Conseil des États. Le projet ne respecte pas le frein à l'endettement, mais les sénateurs ont refusé de couper dans les paiements directs aux agriculteurs et dans le transport régional des voyageurs. Ils ont aussi repêché la campagne nationale de prévention contre les violences domestiques. Le crédit avait été biffé du plan financier. C'est la sénatrice du Centre Marianne Marais qui a proposé de récupérer ce crédit. Pour elle, cette campagne contre la violence ne peut pas être reportée.
La première raison, elle est liée à l'urgence de la situation. On a quand même, très tristement en Suisse, un féminicide chaque 2 semaines. Les violences domestiques et les violences psychologiques et genrées sont vraiment un phénomène important et qui se passe partout, dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux. Et je pense que plus on attend, plus on laisse la situation se gangréner et plus ça coûtera cher a posteriori hein, si on veut continuer à parler d'argent parce qu'il y a quand même la vie qui est impliquée après la loi sur l'aide aux victimes d'infractions. Et je pense qu'il faut vraiment agir maintenant, c'est même déjà un peu tard j'ai envie de vous dire. Et puis la deuxième raison c'est que reporter c'était pas possible, ça veut dire qu'il aurait fallu redéposer une motion, recommencer à se battre pour que cette motion soit acceptée. Pour que cette campagne soit implémentée quand possiblement les finances de la Confédération iront mieux. Pour moi, c'est une hypothèse qui n'était pas réaliste.
Le Conseil national doit encore examiner le budget 2024 de la Confédération ainsi que la proposition de Marianne Marais. Les reptiles et amphibiens de Suisse ne sont pas tirés d'affaire. La liste rouge des espèces menacées a été publiée vendredi dernier. Le Centre de compétences pour la protection de ces animaux à Neuchâtel Infofauna indique que 80% des lézards et serpents et 79% des grenouilles, crapauds et autres tritons sont menacés. Une situation qui ne s'est pas améliorée ces dernières années depuis le dernier recensement de 2005. Selon Sylvain Oursenbacher, collaborateur scientifique à Infofauna, il est plus facile d'alerter l'opinion publique du sort des amphibiens que celui des serpents à mauvaise réputation.
En effet, c'est peut-être plus compliqué d'essayer de protéger et de convaincre les gens de protéger des reptiles que de protéger des salamandres que tout le monde aime bien. Par contre, on voit qu'il y a aussi une modification du comportement. Il y a 20, 30, 40 ans, tout serpent, voire toute vipère, bonne vipère était une vipère morte. Je pense qu'à l'heure actuelle, les gens changent d'opinion. On a des gens qui se rendent compte de l'intérêt d'avoir des serpents, voire des vipères proches de leur jardin ou dans les zones de vigne, parce qu'elles chassent énormément de micro-mammifères. Donc, ça fait partie d'un tout. Et même les serpents mal aimés, comme les vipères, peuvent être utiles. Et les gens, finalement, les voient comme non plus des nuisibles, mais comme des espèces qui font partie d'un ensemble et qui peuvent être, entre guillemets, utiles dans leur jardin ou dans leur vigne, par exemple.
Dans l'actualité internationale, le réchauffement climatique s'intensifie plus rapidement que prévu. Les scientifiques du Global Carbon Project ont lancé l'alerte ce matin. D'ici 7 ans, le seuil de plus 1,5 degré prévu dans l'accord de Paris pourrait être dépassé de manière durable. L'étude dénonce la hausse de l'usage des énergies fossiles comme le charbon. Léonard Schneider, chargé d'enseignement en climatologie à l'université de Neuchâtel, précise que les différences entre régions du monde existent, mais les impacts restent globaux.
On voit des tendances un peu différentes selon les régions du monde, mais il faut aussi bien comprendre que tout est lié. Donc c'est vrai aussi qu'une partie des émissions de gaz à effet de serre européennes, on les a délocalisées finalement dans certains pays asiatiques en déplaçant une partie de la production industrielle. Donc maintenant, ces émissions, on va les compter peut-être en Chine par exemple ou dans d'autres pays asiatiques, mais disons que ça nous concerne toujours parce que c'est toujours lié à nos biens de consommation. Donc voilà, on a des progrès dans certaines régions, mais il faut arriver à des progrès au niveau global.
Et globalement, on parle de plus de charbon, plus de gaz, plus de pétrole. C'est pas justement ce qu'on voulait éviter avec ces objectifs fixés dans l'accord de Paris en 2015 ?
Oui, précisément. Alors c'est toujours un peu le problème entre les objectifs fixés et puis ce qu'on observe concrètement et puis aussi les moyens qu'il faudrait se donner pour les atteindre. Donc de fait, il faudrait diminuer la consommation de pétrole, de charbon et de gaz. Et pour le moment, ce n'est pas ce que l'on observe. Alors, on commence à en parler maintenant dans les COP et à venir un peu dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'en effet, il faudrait arriver à baisser cette consommation. Pour le moment, on n'y arrive pas encore.
Léonard Schneider au téléphone de Lydiane Guéna. Dans la région, BKV lance son offensive solaire. Le groupe électrique bernois suit ainsi la stratégie décrétée par le Parlement fédéral. 6 projets de parcs de montagne sont à bout touchant, 5 dans l'Oberland bernois et 1 dans le Jura bernois sur les hauts de Saint-Imier. 20 000 panneaux solaires devraient bientôt côtoyer les 16 éoliennes que BKV exploite déjà à Mont-Soleil. L'histoire du solaire à Saint-Imier remonte à plus de 30 ans, rappelle Cédric Sbinden qui pilote le projet.
La centrale de Mont-Soleil date de 1992, donc on était dans un autre contexte, on se méfiait un petit peu de cette technologie photovoltaïque. Entre-temps, depuis 30 ans, donc les gens s'y sont familiarisés. Maintenant, l'autre centrale, on est plutôt sur de la production. On a besoin de beaucoup de surface, et puis cette surface nécessite beaucoup d'écoute, beaucoup de sensibilité aussi par rapport aux habitants, par rapport aux personnes qui utilisent aujourd'hui ces terres. Et c'est de trouver le meilleur équilibre, d'avoir des centrales de production sur des surfaces importantes, mais qui permettent quand même toujours de cohabiter ensemble dans des lieux si proches d'habitation comme à Mont-Soleil.
Les panneaux solaires des BKV seront construits à 2,50 m du sol pour permettre aux troupeaux de continuer de brouter dans les alpages, sous et autour des panneaux. Les partisans bernois du Concordat qui fixent les modalités du transfert de Moutier dans le Jura donnent de la voix. Des députés au Grand Conseil bernois qui représentent tout l'échiquier politique ont apporté ce matin leur soutien au document qui sera soumis au plénum en mars prochain. Une dizaine de députés francophones et germanophones se sont exprimés à titre individuel et estiment qu'un rejet du Concordat relancerait la question jurassienne. Les polluants éternels, appelés PFAS, ne constituent pas un réel problème dans le Jura. Leur quantité est très faible sur nos sols et dans nos eaux souterraines. C'est ce qui ressort de la réponse du gouvernement jurassien à une question écrite de la députée verte au Parlement, Sonia Burich-Massmann. Même si l'Office de l'Environnement ne détient pas de liste exhaustive des sites pollués aux PFAS, des investigations ont été menées sur les sites où une contamination pouvait être attendue. Détail avec Loïc Georgie.
Plusieurs sites ont été passés à la loupe, des décharges ayant accueilli des déchets d'incendie ou sur lesquels des feux étaient régulièrement allumés, des anciennes grandes entreprises de galvanoplastie ou encore des sites ayant été la proie d'incendies nécessitant l'utilisation de mousses d'extinction à base de PFAS. Les résultats sont plutôt rassurants dans les analyses des eaux proches de ces sites. En plus, l'enquête auprès des SIS sur l'utilisation des mousses d'extinction a conclu qu'aucun recours important à ces substances n'a eu lieu dans le Jura. Là encore, plutôt positif. Le gouvernement relève ainsi qu'aucun site contaminé à l'heure actuelle ne nécessite un assainissement, mais il faut les tenir sous surveillance.
Et dans le cadre de l'Observatoire national des sols, trois stations situées à Cornoles, Chevenay et Saint-Ursanne ont été investiguées. Les résultats ont montré la présence de polluants éternels en quantité largement inférieure au seuil qui se traduirait par une pollution des eaux souterraines. Hal se prononce sur son budget ce soir. Les citoyens de la commune Ajoulotte ont rendez-vous à la salle des fêtes à 20h15. Le budget affiche un bénéfice de quelque 45 000 francs. L'Assemblée communale se prononcera aussi sur différents crédits, notamment 150 000 francs pour le déploiement de l'éclairage public LED. Compte rendu demain sur rfj.ch.
RFJ, il est 18h12.
Sport. Le trophée de la Tour de Moron veut se donner une seconde jeunesse. L'épreuve de course à pied organisée par le groupe sportif Malray-Bévillard a frôlé la disparition. Elle devenait toujours plus conséquente à organiser, tandis que les forces vives et les bénévoles étaient toujours moins nombreux et essoufflés. Le bouche à oreille a suscité un élan de soutien et les organisateurs ont décidé de maintenir la manifestation qui compte pour le trophée jurassien et le Jura Top Tour et continuera de se tenir fin septembre. Le président du comité, Yann Minder, confie que la remise en question a été profonde.
On s'est questionné de savoir comment faire pour pérenniser notre manifestation. On était toujours moins de monde pour organiser, pour aider. Il y a une grosse remise en question au sein du groupe sportif. On a fait une assemblée générale extraordinaire et il en est rapidement ressorti que le trophée de la Tour de Moron devait continuer, qu'on devait trouver des solutions pour continuer. Il était décidé de sortir l'organisation du trophée de la Tour de Moron du giron du groupe sportif et de créer une association ouverte aux personnes externes, donc aux non-membres du groupe sportif. Le comité s'est approché de quelques personnes. Ces personnes ont rapidement répondu présentes et maintenant on va rechercher des bénévoles. Alors on est plus que confiants. On a reçu beaucoup de soutien de différents acteurs économiques, politiques, sportifs. On a senti un soutien unanime. La course est pérennisée, ça c'est clair.
La nouvelle association sera créée prochainement. Le comité organise une séance d'information à l'intention des personnes intéressées à rejoindre l'équipe de bénévoles du trophée de la Tour de Moron. Ce sera le 25 janvier à 19h au restaurant de la Place à Malray. Détails sur rfj.ch. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Je vous souhaite une très bonne soirée.